Chapitre 2. La colère du roi. Donc, l'équipe d'Allemagne avait tourné court, laissant le Navarrais dans le dépit. Reparti pour Évreux, il ne manqua pas de s'y agiter. 3 mois passent. Nous arrivons à la fin mars de l'an dernier. Si, de l'an dernier, je dis bien. Ou l'an présent, si vous voulez. Mais Pâques étant cette année tombé le 24 avril, c'était encore l'an dernier. Oui, je sais, mon neveu, c'est assez sotte coutume qui veut, en France, alors que l'on fête l'an neuf le 1er janvier, que pour les registres, traités et toutes choses à se remémorer, on ne change de nombre qu'à partir de Pâques. La sottise, surtout, et qui met beaucoup de confusion, c'est d'avoir aligné le début légal de l'an sur une fête mobile, de sorte que certaines années comptent 2 mois de mars alors que d'autres sont privées d'avril. Certes, il faudrait changer cela, j'en tombe bien d'accord avec vous. Il y a déjà fort longtemps qu'on en parle, mais l'on ne s'y résout point. C'est le Saint-Père qui devrait en décider une bonne fois pour toute la chrétienté. Et croyez bien que la pire embrouille, c'est pour nous, en Avignon. Car en Espagne, comme en Allemagne, l'an commence le jour de Noël. À Venise, le 1er mars. En Angleterre, le 25. Si bien que lorsque plusieurs pays sont partis à un traité conclu au printemps, on ne sait jamais de quelle année on parle. Imaginez qu'une trêve entre la France et l'Angleterre ait pu être signée dans les jours d'avant Pâques. Pour le roi Jean, elle serait datée de l'an 1355 et pour les Anglais de 1356. Oh, je vous le concède volontiers, c'est chose la plus bête qui soit. Mais nul ne veut revenir sur ses habitudes, même détestables. Et l'on dirait que les notaires, tabellions, prévôts et toutes gens d'administration prennent plaisir à s'encrouter dans les difficultés qui égarent le commun. Nous en arrivons, vous disais-je, à cette fin du mois de mars où le roi Jean eut une grande colère. Contre son gendre, bien sûr. Oh, reconnaissons que les motifs de déplaisir ne lui manquaient pas. Aux États de Normandie, assemblés au Vaudreuil par devant son fils devenu le nouveau duc, il s'était dit de rudes paroles à son endroit, comme jamais on en avait ouï auparavant. Et c'étaient les députés de la noblesse, montés par les Évreux Navarres, qui les avaient proférés. Les deux d'Harcourt, l'oncle et le neveu, étaient les plus violents à ce qu'on m'a dit. Et le neveu, le gros comte Jean, s'était emporté jusqu'à crier « Par le sang Dieu, ce roi est mauvais homme, il n'est pas bon roi et je me garderai de lui. » Cela était revenu, vous imaginez bien, aux oreilles de Jean II. Et puis, aux nouveaux états de Languedoc qui s'étaient tenus à la suite, les députés de Normandie n'étaient point venus. Refus de paraître, tout bonnement. Ils ne voulaient plus s'associer aux aides et subsides, ni les payer. D'ailleurs, l'Assemblée eut à constater que la gabelle et l'imposition sur les ventes n'avaient point produit ce qu'on en attendait. Alors on décida d'y substituer un impôt sur le revenu vaillant en bout d'année où l'on se trouvait. Je vous laisse à penser comme la mesure fut bien prise d'avoir à payer au roi une part de tout ce qu'on avait reçu, perçu ou gagné au fil de l'an, et souvent déjà dépensé. Non, cela ne fut point appliqué au Périgord ni nulle part en Languedoc. Mais je sais des personnes de chez nous qui sont passées à l'anglais par peur simplement que la mesure ne leur fût étendue. Cet impôt sur le revenu vaillant, joint à l'enchérissement des vivres, provoqua de l'émeute en diverses places, et surtout Arras, où le menu peuple s'insurgea. Et le roi Jean dut envoyer son connétable avec plusieurs compagnies de gendarmes pour charger ses meneurs. Non, certes, tout cela ne lui offrait guère raison de se réjouir. Mais si gros ennui qu'il est, un roi doit conserver empire sur soi-même, ce qu'il ne fit pas en l'occasion que voici. Il était à l'abbaye de Beaupré en Beauvaisis pour le baptême du premier-né de Monseigneur Jean d'Artois, comte II depuis qu'il a été gratifié des biens et titres de Raoul de Bienne, le connétable décapité. Oui, c'est cela même, le fils du comte Robert d'Artois, auquel il ressemble fort d'ailleurs par la tournure. Quand on le voit, on en est saisi. On croit voir le père, à son âge, un géant. Une tour qui marche, les cheveux rouges, le nez bref, les joues piquées de soie de porc et des muscles qui lui joignent d'un trait la mâchoire à l'épaule. Il lui faut pour sa remonte des chevaux de fardier et lorsqu'il charge, harnaché en bataille, il vous fait des trous dans une armée. Mais là s'arrête la semblance. Pour l'esprit, c'est le contraire. Le père était astucieux, délié, rapide, malin, trop malin. Celui-là a la cervelle comme un mortier de chaux et qui a bien pris. Le comte Robert était procédurier, comploteur, faussaire, parjure, assassin. Le comte Jean, comme s'il voulait racheter les fautes paternelles, se veut modèle d'honneur, de loyauté et de fidélité. Il a vu son père déchu et banni. Lui-même, en son enfance, a un peu séjourné en prison avec sa mère et ses frères. Je crois qu'il n'est point encore accoutumé au pardon qu'il a reçu et à son retour en fortune. Il regarde le roi Jean comme le rédempteur en personne. Et puis, il est ébloui de porter le même prénom. Mon cousin Jean, mon cousin Jean. Il se balance du cousin Jean toutes les trois paroles. Les hommes de mon âge, qui ont connu Robert d'Artois, même s'ils ont eu à souffrir de ses entreprises, ne peuvent se défendre d'un certain regret en voyant la bien pâle copie qu'il nous a laissée. Ah, c'était un autre gaillard, le comte Robert. Il a rempli son temps de ses turbulences. Quand il mourut, on eût dit que le siècle tombait dans le silence. Même la guerre semblait avoir perdu de sa rumeur. Quel âge aurait-il à présent, voyons? Ah, autour de 70 ans. Oh, il avait de la force pour vivre jusque-là si une flèche perdue ne l'avait abattu dans le camp anglais au siège de Vannes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les preuves de loyauté que multiplie le fils n'ont pas eu pour la couronne meilleur effet que les trahisons du père. Car ce fut Jean d'Artois qui, juste avant le baptême, et comme pour remercier le roi du grand honneur de son parrainage, lui révéla le complot de Conche, ou ce qu'il croyait être un complot. Conche, oui, je vous l'ai dit, un des châteaux autrefois confisqués à Robert d'Artois et que Monseigneur de Navarre s'est fait donner par le traité de Valognes. Mais il reste là-bas quelques vieux serviteurs des d'Artois qui leur sont toujours attachés. De la sorte, Jean d'Artois a pu chuchoter au roi, un chuchotement qui s'entendait à l'autre bout du bailliage, que le roi de Navarre s'était réuni à Conche avec son frère Philippe, les deux d'Harcourt, l'évêque Lecoq, Friquet de Fricamp, plusieurs sires normands de vieille connaissance, et encore Guillaume Marcel, ou Jean, enfin l'un des neveux Marcel, et un seigneur qui arrivait de Pamplune, Miguel d'Espelette, et qu'ils auraient tous ensemble comploté d'assaillir par surprise le roi Jean à la première fois que celui-ci se rendrait en Normandie, et de l'oxyre. Était-ce vrai? Était-ce faux? Je pencherais à croire qu'il y avait un peu de vrai là-dedans, et que sans être allé jusqu'à mettre la conjuration sur pied, ils avaient envisagé la chose. Car elle est bien dans la manière de Charles le Mauvais, qui, ayant manqué l'opération dans la grandeur en allant chercher appui auprès de l'empereur d'Allemagne, ne répugnait sans doute pas à l'accomplir dans la vilainie, en répétant le coup de la truie qui file. Il faudra attendre d'être devant le tribunal de Dieu pour connaître le fond de la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait beaucoup discuté à Conche pour savoir si l'on se rendrait à Rouen dans une semaine de là, le mardi d'avant la mi-carême, au festin auquel le dauphin, duc de Normandie, avait prié tous les plus importants chevaliers normands pour tenter de s'accorder avec eux. Philippe de Navarre conseillait qu'on refusât. Charles, au contraire, était enclin à accepter. Le vieux Godefroy d'Harcourt, celui qui boite, était contre, et le disait bien fort. D'ailleurs, lui qui s'était brouillé avec feu le roi Philippe VI pour une affaire de mariage où l'on avait contrarié ses amours, ne se regardait plus tenu par aucun lien de vassalité envers la couronne. « Mon roi, c'est l'anglais !» disait-il. Son neveu, l'obèse comte Jean, que le fumet d'un banquet eut traîné à l'autre bout du royaume, penchait pour y aller. À la fin, Charles de Navarre dit que chacun en ferait à son gré, que lui-même se rendrait à Rouen avec ceux qui le voudraient, mais qu'il approuvait autant les autres de ne point paraître chez le dauphin, et que même c'était sagesse qu'il y en eût dans le retrait, car jamais il ne fallait mettre tous les chiens dans le même terrier. Une chose encore fut rapportée au roi qui pouvait étayer le soupçon du complot. Charles de Navarre aurait dit que, si le roi Jean venait à mourir, aussitôt il rendrait public son traité passé avec le roi d'Angleterre, par lequel il le reconnaissait pour roi de France et qu'il se conduirait en tout comme son lieutenant dans le royaume. Le roi Jean ne demanda pas de preuves. Le premier soin d'un prince doit être de toujours faire vérifier la délation, et la plus plausible aussi bien que la plus incroyable. Mais notre roi manque tout à fait de cette prudence. Il gobe comme Euphrée tout ce qui nourrit ses rancunes. Un esprit plus rassis eût écouté, et puis cherché à rassembler renseignements et témoignages au sujet de ce traité secret qui venait de lui être révélé. Et si de cette présomption il avait pu faire vérité, il eût alors été bien fort contre son gendre. Mais lui, dans l'instant, prit la chose pour certifiée, et c'est tout enflammé de colère qu'il entra dans l'église. Il y eut, m'a-t-on dit, une conduite étrange, n'entendant point les prières, prononçant tout de travers les répons, regardant chacun d'un air furieux et jetant sur le surplis d'un diacre la braise d'un encensoir auquel il s'était heurté. Je ne sais trop comment fut baptisé le rejeton des Dartois, mais avec un semblable parrain, je crois qu'il faudra bien vite faire renouveler ses vœux à ce petit chrétien-là, si l'on veut que le bon Dieu l'ait en miséricorde. Et dès l'issue de la cérémonie, ce fut l'ouragan. Jamais les moines de Beaupré n'entendirent tant de jurons affreux, comme si le diable s'était venu loger dans la gorge du roi. Il pleuvait, mais Jean II n'en avait cure. Pendant toute une grande heure, et alors qu'on avait déjà corné l'eau du dîner, il se fit saucer en arpentant le jardin des moines, battant les flaques de ses poulaines. Ces ridicules chaussures que le beau monsieur d'Espagne et lui mirent en mode. Et forçant toute sa suite, messire Nicolas Braque, son maître de l'hôtel, et messire de Loris, et les grands chambellans, et le maréchal d'Audrehem, et le grand Jean d'Artois, tout éberlué et penaud, à se tremper avec lui. Il se gâta là pour des milliers de livres de velours, de broderies et de fourrures. « Il n'y a nul maître en France, hors moi !» hurlait le roi. « Je ferai qu'il crève, ce mauvais, cette vermine, ce blaireau pourri qui conspire ma faim avec tous mes ennemis. Je m'en vais l'oxyre moi-même, je lui arracherai le cœur de mes mains et je partagerai son puant corps en tant de morceaux, m'entendez-vous, qu'il y en aura assez pour en pendre un à la porte de chacun des châteaux que j'ai eu la faiblesse de lui octroyer. » Et qu'on ne vienne plus jamais intercéder pour lui, et qu'aucun de vous ne s'avise de me prêcher l'accommodement. D'ailleurs, il n'y aura plus lieu de plaider pour ce félon, et la Blanche et la Jeanne pourront se vider à faire couler leurs larmes. On apprendra qu'il n'y a nul maître en France, hors moi. Et sans cesse, il revenait sur ce « nul maître en France, hors moi », comme s'il avait eu besoin de se persuader qu'il était le roi. Il se calma à demi pour demander quand se tiendrait ce banquet que son âne de fils offrait si courtoisement à son serpent de gendre. « Le jour de la Sainte-Irène, le 5 avril. »« Le 5 avril, la Sainte-Irène, » répéta-t-il, comme s'il avait peine à se mettre une chose si simple dans l'esprit. Il resta un moment à secouer la tête, tel un cheval, pour égoutter ses cheveux jaunes tout collés de pluie. « Ce jour-là, j'irai chasser à Gisors, » fit-il. On était habitué à ces sautes d'humeur. Chacun pensa que la colère du roi s'était épuisée en paroles et que la chose en resterait là. Et puis, advint ce qui se passa au banquet de Rouen. « Oui, mais vous ne le savez pas par le menu. Je vais vous conter cela, mais demain. Car pour ce jour-là, l'heure avance et nous devons être proches d'arriver. Vous voyez, à bavarder ainsi, le chemin paraît plus court. » Pour ce soir, nous n'avons qu'à souper et dormir. Demain, nous serons à Auxerre, où j'aurai des nouvelles d'Avignon et de Paris. Ah, un mot encore, Archambault. Soyez circonspect avec Monseigneur de Bourges qui nous accompagne, si jamais il vous entreprend. Il ne me plaît guère et, je ne sais pourquoi, j'ai dans l'idée que cet homme-là a des intelligences avec le Capocci. Lancez le nom sans paraître y toucher et vous me direz ce qu'il vous en semble.